Bonjour à tous, en ce mardi 5 décembre. Ben oui, on est déjà rendu au mois de décembre. Et vous écoutez votre émission des voix de service, votre émission du mardi. Et je suis en compagnie de mon complice.
Toujours là. Bonjour, bonjour, Bernice, Michel.
Maintenant, fidèle.
Ça commence.
Alors, Louis, de quoi sont-ils question?
Eh bien, moi, sans le vouloir quasiment, j'ai une thématique assez animalière aujourd'hui.
Ah oui.
Il sera question de funérailles pour animaux. On va se rendre en Asie pour ça, vous vous en doutiez peut-être. Également du Yeti, le Yeti démasqué.
Ah oui.
Voilà la thématique de ce deuxième article.
Oui, qui porte toutes sortes de noms à travers le monde. Hein. Sasquatch, etc.
Eh bien, on va le démasquer ensemble.
Ah.
Et finalement, nous aurons également la coquille Saint-Jacques qui est de saison, puisqu'il va y en avoir autour des tables à l'approche de Noël. Là. Et puis, plein de petites autres insolites.
Bien. De mon côté, je vous amène au cœur de la jungle, mais en toute sécurité, vous allez voir. C'est un des endroits, vous savez, je vous ai parlé de coups de cœur que j'ai eus à travers la planète. Et ceci, c'est vraiment un coup de cœur extraordinaire. Mais d'un autre côté, je vous présente un autre aspect qui est très différent. C'est le côté sombre de la Chine. Vous allez voir que c'est très sombre. Alors Louis,
allons-y avec les funérailles, des funérailles bouddhistes pour les animaux. Et oui, ça existe et je vous en parle. Pour cela, il faut se rendre à Bangkok. Bangkok, dans un temple, une banquière jette un dernier regard à son petit chien bien-aimé, prénommé Dollar, avant de mettre une guirlande de jasmin sur sa dépouille, comme le veut la tradition des funérailles bouddhistes. C'est mon dernier moment avec elle et je veux que Dollar reçoive des choses positives. Et elle explique qu'elle décrit son animal un peu comme son enfant. Le petit chien sera incinéré au funérarium spécialement construit pour les animaux dans ce temple. Seule fantaisie dans ce rituel, le cercueil est rose. Dollar n'est pas un cas isolé à Bangkok, où des magasins proposent toute une gamme de vêtements pour animaux, mais aussi des poussettes ou des piscines pour chiens. Face à la demande d'une classe moyenne ayant de l'argent à dépenser pour ses animaux de compagnie, plusieurs temples bouddhistes proposent désormais des funérailles en tout genre. La tendance vient du Japon, où des funérailles de poupées ou de peluches sont également organisées. L'équivalent se trouve en Europe avec des cimetières d'animaux. Au temple bouddhiste Kratum Sweapla, l'offre va de la crémation simple, l'animal posé à même la plaque du crématorium, à l'intervention de moines pour chanter et prier pour l'esprit de l'animal défunt. Des sorties en bateau sont même organisées sur le grand fleuve traversant Bangkok, la Chao Phraya, pour que les propriétaires d'animaux puissent disperser leurs cendres dans les flots comme ils le feraient pour un proche parent. Si la réincarnation existe, reviens comme ma fille, pas sous la forme d'un animal pleure lors de l'une de ses sorties en bateau, Tipoporn Unsiri, dont le husky est mort. Avant cette ultime étape d'adieu dans la salle dédiée aux funérailles animales, dans le temple, à côté de celle réservée aux humains, des moines en robe orange psalmodient pour accompagner les plus privilégiés vers leur prochaine vie. Pour les funérailles de Dollar, le petit chien, des couronnes mortuaires de fleurs fraîches ont été disposées avec, au milieu, une photo encadrée de la petite chienne. Selon le principe bouddhiste de la réincarnation, une personne peut se réincarner en animal dans ses vies ultérieures et vice-versa. Dans cette vie, elle ne pouvait pas aller au temple pour faire des offrandes, tradition très pratiquée en Thaïlande, censée porter chance pour sa prochaine vie, explique la maîtresse de Dollar. Thirawat Seyan est l'heureux fondateur de la société Pet Funeral Thailand. Lancé il y a 4 ans, il organise plus de 200 funérailles d'animaux de compagnie par mois. Chats et chiens figurent en bonne place, vous vous en doutez. Mais il y a aussi des serpents et des singes. Et même des coqs de combat tués en affrontant leurs adversaires lors de ces joutes très populaires en Thaïlande. Ils sont récompensés de leur loyaux service avec une crémation bouddhiste en bonne et due forme, explique-t-il. Son entreprise marche si bien qu'il a mis en place un partenariat avec le temple en question, où des moines sont en charge de gérer le centre des funérailles pour animaux. Avant, nous les enterrions dans des parcs, mais aujourd'hui, il est devenu difficile de trouver de l'espace à Bangkok, explique le moine Samu Jumpol, l'un des responsables du temple. La facturation des funérailles les plus somptueuses peuvent monter, tenez-vous bien, jusqu'à 4 000 $ canadiens. Contre 3 000 bahts, soit environ 120 $ canadiens pour une cérémonie simple avec un seul moine, explique un religieux. Dans ce pays très majoritairement bouddhiste, les temples sont régulièrement accusés de mercantilisme, multipliant les moyens d'obtenir des dons de leurs ouailles. Mais pour le moine Samu Jumpol, marquer les funérailles de son animal de compagnie dans un temple bouddhiste est un bon moyen pour les propriétaires de se souvenir que rien n'est permanent dans la vie. Voilà pour cette tradition originale, mais écoutez, si les maîtres des animaux y croient et que c'est important pour eux, après tout.
Bah oui, c'est ça. Apparemment, cette propriétaire a fait tout pour son dollar.
Jusqu'au bout.
Se dirige au cœur de la jungle. C'est tiré d'un billet de Serge Bilodeau que j'ai fait mien. Et à 1h30 de vol, je suis au Brésil, là, à 1h30 de vol de Rio de Janeiro, tout près des Tres Fronteras. Tres Fronteras, c'est trois frontières. C'est le point de rencontre de l'Uruguay, de l'Argentine et du Brésil. Et on y trouve la ville de Foz do Iguaçu, qui veut dire embouchure de l'Iguaçu, qui est le fleuve. C'est le départ de la visite des majestueuses cataratas, des Iguaçu, des cataractes. Et c'est une série de 275 chutes et cascades. Et c'est situé en pleine jungle. Après les formalités d'entrée, on sera au premier belvédère. Et là, la nature nous dévoile un spectacle d'une beauté incommensurable. Si une chute est belle, majestueuse et impressionnante, je pense à Niagara, entre autres choses, ben, il faut imaginer ce que représente une série de 275 chutes et cascades en pleine jungle. D'autre côté, juste vis-à-vis, on est en Argentine. Et du côté brésilien, on a droit à un gigantesque spectacle. Des passerelles sont aménagées à une assez grande distance des chutes pour permettre une vision panoramique, une vue d'ensemble. Et tout au long des 3 km de piste, qui sont sécuritaires quand même, le décor est véritablement à couper du souffle. Et ça modifie sans arrêt, et particulièrement avec le soleil, un ciel bleu, le feuillage vert, l'eau blanche des chutes. C'est un contraste de couleurs qui est véritablement un ravissement pour les yeux. La balade est immanquablement agrémentée par la présence d'un petit animal qui s'appelle le coati, un coati sauvage. Coati sauvage, il ressemble à notre raton laveur, avec un long museau, cependant, qu'on trouve un peu partout. Il faut faire attention. Si vous jetez des ordures dans une poubelle, qui a un couvercle, attention, parce que là, vous savez, la petite porte à bascule, ben, les coatis, ils réussissent, un peu comme nos ratons laveurs, à y entrer. Et parfois même à y sortir. Alors, attention à vos doigts. On y trouve des singes qui se promènent un peu partout, des toucans. Alors, quel spectacle de voir un volée de toucan. Et aussi des papillons exotiques. Je ne pourrais jamais oublier, lorsque j'étais sur le bord d'une balustrade au bord, un magnifique papillon qui vient se poser sur ma main. Un très, très grand papillon, presque la grandeur de la paume. Quel magnifique spectacle. Et pour conclure, ben, il y a des passerelles qui s'avancent dans le décor où on vibre au vrombissement et la puissance des chutes. Je serais recommandé d'avoir une caméra à l'épreuve de l'eau ou un ziploc pour la ranger, car il y a continuellement une bruine qui envahit les passerelles et vous allez être véritablement trempé jusqu'aux os. Je pense que je peux dire avec Serge Bilodeau que c'est le site naturel qui m'a véritablement le plus impressionné. Et de l'autre côté de la rue se trouve un parc, le Parc des Aves, des oiseaux. C'est un refuge animalier qui accueille et soigne les oiseaux blessés ou malades. C'est une très belle halte à faire en fin d'après-midi. Et ça facilite la tâche pour des photos d'oiseaux que vous n'avez pas réussi à prendre en pleine nature. Parce qu'on y trouve des toucans qui ne sont pas nécessairement, ils ne viennent pas se poser devant vous, les toucans. Hein. Et le soir, il faut en profiter pour aller à Foz-Iguaçu dans une churrascaria, un restaurant typiquement brésilien. On sert des plats de viande grillade. Et au buffet, étonnamment, on trouve tout, excepté la viande. Parce que, on le retrouve ici dans certains restaurants brésiliens aussi, et la viande est embrochée et apportée à votre table. Et on la découpe sur place et pour faire goûter à toutes sortes de variétés de viande grillée. Plus tard, on peut traverser du côté argentin, que je préfère véritablement au côté brésilien. Je trouve plus spectaculaire parce qu'il y a une passerelle au-dessus des chutes et une tout à fait en bas. Et là, on est véritablement au cœur des chutes. Il faut traverser les douanes avec notre visa. Et du côté argentin, on dit qu'on vit les chutes. On parcourt le trajet sur les passerelles, comme je le mentionnais, jusqu'à la Garganta del Diablo, la gorge du diable. Et ça, c'est le Niagara. C'est très vaste, profond, bruyant. C'est le débit d'eau qui est le plus élevé. Chute d'Iguaçu, beauté désarmante, si on va en Argentine ou au Brésil, ça vaut la peine d'aller faire une incursion de ce côté-là. Et la dernière journée, juste avant de partir, j'ai eu l'occasion de prendre un hélicoptère et de parcourir les chutes au-dessus. Et avec des photos absolument spectaculaires, une vue d'ensemble incroyable. Et en passant, il y a un film qui a été tourné et qui présente bien les chutes. Dès la première scène. Et ce film-là, c'est de Mission, la mission qui est avec Robert De Niro, Jeremy Irons. C'est la date de 1986. C'était la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1986. Et ça raconte la mission des Jésuites au 18e siècle pour évangéliser les Guarani. Maintenant, le film est intéressant, mais aussi la représentation, le décor est absolument spectaculaire dès la première scène. Ah, si vous allez en Amérique du Sud, profitez-en pour aller jeter un œil du côté de Iguaçu. Vous vous en souviendrez longtemps.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu ne crois pas, ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, le cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu ne crois pas, tard ta gueule à la récré. Le mercredi, je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à l'avenir et les gars au chocolat. J'ai 10 ans. Je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vais souvent dans des montgolfières, des géants et des petits hommes verts. Si tu ne crois pas, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein les poches. J'ai 10 ans, des fils et des cloches. J'ai 10 ans, laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu ne crois pas, ta gueule la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Ah, laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré. Tard ta gueule.
Arthur H qui vient de nous chanter « J'ai 10 ans ».
Et vous, quand vous aviez 10 ans, vous avez peut-être lu, comme moi, Tintin, toute la série des Tintins, les bandes dessinées. Et l'un de ces Tintins parlait de Tintin au Tibet, et où l'on croisait le Yéti. Eh bien, le Yéti, j'en parle dans mon article de ce matin. La légende de l'abominable homme des neiges à l'épreuve de la génétique. Des analyses ADN de restes supposés de Yéti montrent que cette créature mystérieuse serait en fait un ours des hautes montagnes de l'Asie, selon une nouvelle étude publiée récemment, mercredi dernier en fait. Ce n'est pas la première fois que la génétique tente de faire un sort au Yéti, parfois décrit comme une sorte de grand singe sévissant dans ces régions. En 2012, une équipe de scientifiques menée par le généticien Brian Sykes de l'université d'Oxford avait déjà réalisé des tests ADN sur des échantillons de poils censés provenir de Yéti. Un an plus tard, elle avait émis l'hypothèse que le Yéti pourrait être en réalité, issu d'un croisement entre un ours polaire et un ours brun. Mais les résultats de cette étude sont controversés. Elle reposait sur des données beaucoup trop limitées pour permettre d'en tirer des conclusions solides, assure Charlotte Lindquist, co-auteur de la nouvelle étude publiée récemment. Ce professeur associé de biologie à l'Université de l'État de New York à Buffalo a travaillé pour sa part sur 9 échantillons de restes supposés de Yéti. Fragments d'os, dents, morceaux de peau, poils ou matière fécale ont été collectés dans les montagnes de l'Himalaya et le plateau tibétain sur une longue période allant de la fin des années 30 à récemment. Ils sont conservés dans des musées et collections particulières. Après l'analyse ADN, l'un d'eux s'est avéré provenir d'un chien. Les 8 autres échantillons correspondent à des ours noirs d'Asie, des ours bruns d'Himalaya et à des ours bruns tibétains. Selon nos résultats, le Yéti est un ours qui vit dans la région actuellement, résume Charlotte Lindquist. Cela peut être n'importe lequel de ces 3 ours locaux. L'ours brun de l'Himalaya est une sous-espèce de l'ours brun. Il est doté d'une fourrure assez claire et rousse. L'ours brun du Tibet a une fourrure plus foncée avec un collier blanc autour du cou. Le 3e larron est l'ours noir d'Asie. Il est plus petit et porte une sorte de collier blanc sur son poitrail. Pour Charlotte Lindquist, les résultats de l'étude permettent de montrer que le mythe du Yéti puise ses racines dans des faits biologiques réels et se rattache aux ours locaux. Cela avait été déjà suggéré auparavant, mais jamais confirmé directement avec une approche scientifique rigoureuse, souligne-t-elle. L'équipe a également mené une étude génétique plus vaste sur 23 ours d'Asie, dont les Yétis supposés. Elle a permis de constater que les ours bruns du plateau tibétain et les ours bruns des montagnes de l'Himalaya occidental semblent appartenir à 2 populations distinctes d'ours séparées depuis très longtemps malgré leur relative proximité géographique. La séparation se serait produite il y a, tenez-vous bien, environ 650 000 ans, lors d'une période glaciaire. Dans son évolution, l'ours brun de l'Himalaya, isolé, aurait suivi son propre chemin. Est-ce pour autant la fin du mythe du Yéti? Elle ne le pense pas. Ce mythe est important pour la région dans l'Himalaya et le folklore local, et il va le rester. Les gens adorent les mystères, conclut-elle.
Ouais, c'est moins mystérieux d'avoir ours brun, ours noir, c'est moins exotique.
Effectivement. Yéti, là, les gens vont continuer à se dire qu'il y a quelque chose qui échappe à l'œil.
Ouais. Ce qui est toujours étonnant dans ces bestioles qu'on imagine, c'est que il n'y a jamais de photos véritablement clair.
Oui, oui.
On s'est toujours embrouillé. Ça me rappelle, par exemple, le monde du Loch
Ness. Exactement, oui.
Il y en avait une qui est de la première qui avait été publiée. Mm-hmm. Et le monsieur qui a pris la photo lorsqu'il est décédé, il dit « Je vous ai trompé le temps de ma vie. »
Tout
et il a expliqué comment il l'avait fait. On a un ici aussi, hein, au lac Memphremagog. J'ai fait un petit reportage là-dessus. Il s'appelle Memphis, Memphis ou Memphrey, quelque chose comme ça. Ah, c'est documenté. On a trouvé des pistes, toutes sortes de choses. J'ai interviewé des gens qui y croyaient, mais très profondément. Mais aucune photo. Encore la même chose. Je vais vous parler d'un arbre qui se distingue, l'arbre de l'année du Québec. Alors, parmi les quatre finalistes sélectionnés par un jury, c'est un homme d'Amérique qui a récolté le plus de votes du public. Et Jean-Philippe Choinière, qui a présenté la candidature, nous dit « Je suis un homme d'Amérique majestueux, l'un des rares survivants de la graphiose qui a décimé mes frères par millions. Mon histoire est longue de 200 hivers. J'ai survécu à une tornade en 1983, ainsi qu'au verglas en 1998, qui m'a pris la moitié de mes branches. Je suis devenu avec les années un lieu traditionnel de rencontre pour la famille et les amis. » On vante ma stature imposante, mais je crois que ma beauté vient avant tout des souvenirs imprégnés dans mon tronc. Les arbres sont des symboles vivants de ces liens que nous tissons avec notre milieu. À reconnaître leur importance dans notre vie constitue un engagement pour leur protection. Donc, l'arbre de l'année du Québec, un homme d'Amérique.
Parlons de sport, de basket plus précisément, aux États-Unis, où il y a un problème qui se voit assez rapidement. Les nouveaux maillots de la NBA se déchirent. Et pas par les fans, je veux dire, se déchirent littéralement. Lancés en fanfare cette saison dans la ligue professionnelle nord-américaine, les nouveaux maillots de Nike, pour ne pas citer la marque, se déchirent régulièrement en match, un défaut que l'équipementier s'attache à régler. Les images se multiplient depuis un peu plus d'un mois, et les premiers matchs avec ces nouvelles tenues qui équipent toutes les franchises de la NBA en vertu d'un contrat global de 8 ans qui prend effet cette saison. Ces maillots, dont les répliques officielles sont vendues tout de même 200$ pièce, intègrent une nouvelle technologie qui permet aux amateurs, via une étiquette cousue au bas du maillot et une application sur téléphone intelligent bien sûr, d'accéder à des contenus exclusifs en lien avec leurs joueurs préférés. Ils sont aussi présentés par Nike comme plus légers, conçus pour faciliter les mouvements et dotés de qualités d'absorption renforcées pour la sueur. Le contrat d'équipement passé entre la NBA et Nike a été estimé par plusieurs médias américains spécialisés à 1 milliard de dollars. Un gros chiffre pour des vêtements qui se déchirent.
Qui se déchirent, oui, c'est ça. Je pensais que les fans se les arrachaient.
Eh non, même pas.
Avec mes créneaux, c'est voyage, nature et science. Et dans la nature, j'aime souvent vous parler d'oiseaux. Et ma Bible, c'est bien sûr Québec, oiseaux, très riche. Et une équipe de chercheurs américains vient de découvrir comment le manchot, qui vit en Antarctique, qui s'appelle le manchot papou, et qui vit dans les îles subantarctiques, il peut prendre un bain sans crainte de se transformer en glaçon. Il possède un plumage anti-gel. Deux caractéristiques de son plumage lui permettent d'éviter la congélation. D'abord, la rugosité des plumes. En effet, les plumes sont ornées de micro-rainures qui permettent de repousser aisément des gouttelettes d'eau à l'extérieur, évitant la formation de glace. Ensuite, la glande du manchot papou, située près de la base de la queue, secrète une huile de très grande qualité. Alors, cette huile imperméabilise son plumage, ce qui permet également d'éloigner l'eau qui pourrait s'y incruster. Alors, on pourrait s'en inspirer pour des vêtements, de l'huile de manchot. Et on souhaite maintenant que les secrets du manchot papou puissent inspirer aussi la conception d'ailes d'avion avec des rainures dont on a parlé, qui pourraient ainsi résister au givrage. On nous dit que les mâles, c'est les oiseaux, sont mieux équipés pour affronter le froid que les femelles. Alors, chez plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs, on observe une répartition inégale sur les aires d'hivernage entre les sexes. Les ornithologues canadiens ont cherché à expliquer le phénomène. Ils ont remarqué que les mâles passaient l'hiver plus au nord que les femelles. Ils ont pensé qu'ils préféraient peut-être s'installer plus près de leur territoire pour y arriver plus tôt le printemps, mais ce n'est pas le cas. Ce serait plutôt la plus grande tolérance au froid chez les mâles qui expliquerait pourquoi ils ne passent pas le temps des fêtes avec leurs dulcinées. En effet, les mâles sont habituellement plus gros que les femelles, ce qui leur permettrait d'être physiologiquement avantagés dans des conditions climatiques rudes, froides. Et pour la part, les femelles, plus douillettes parce qu'elles sont plus petites, auraient besoin de temps plus clément, ce qui expliquerait en majeure partie pourquoi elles doivent se rendre plus au sud pour hiverner. Donc, les mâles mieux équipés pour affronter le froid. Alors, restez avec nous. Après une courte pause, nous vous reviendrons avec toutes sortes de sujets diversifiés.
Je regarde vers le ciel, je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. Qu'attends-tu au bout du poteau, devant moi qui n'a pas d'aile? T'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de plume, juste un peu de poil. regarde dans tu en fait me voir courir. C'est pas que ça me rend, mais si jamais tu me sens courir. Je suis pas mort pour autant, je suis juste un peu fatigué. Si tu me suivais dans mon désert, où j'avance à lâcher. Chanter. Il y a quelque chose qui m'énerve, je sais pas si je devrais te dire. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai voulu me fabriquer des ailes. J'ai sauté de mon toit pour aussitôt atterrir. Mais c'est tout naturel, j'ai pas de plume, juste un peu de poil.
Entendre Fred Fortin et la pièce Oiseau.
Alors Louis, on poursuit?
On reprend effectivement la coquille Saint-Jacques. Je ne vais pas vous parler de repas de Noël, non. Je vais vous parler de la coquille, vraiment, sa vie, comment surtout elle voit le monde. Vous allez comprendre. La coquille Saint-Jacques, l'un des mollusques les plus prisés des gastronomes, possède un système visuel sophistiqué, pouvant comprendre jusqu'à 200 yeux d'un millimètre de diamètre, fonctionnant comme des télescopes, révèle une étude israélienne publiée la semaine passée. Tout comme des systèmes optiques complexes chez d'autres animaux, tels les homards, qui ont déjà aidé à la conception de télescopes plus puissants, les résultats de cette étude pourraient ouvrir la voie à la création de nouveaux instruments optiques inspirés de la biologie, ou déboucher sur des applications en imagerie ou encore pour de nouveaux capteurs, estiment ces chercheurs. La plupart des yeux des animaux, comme chez les humains, ont un cristallin, une lentille qui fait converger la lumière vers la rétine, formée de tissus sensibles aux rayons lumineux se trouvant au fond de l'œil. Mais certains organismes marins, comme la coquille Saint-Jacques, et des poissons vivant dans les grandes profondeurs, ont un système de miroir pour créer des images par réflexion de la lumière et programmé pour capter des ondes lumineuses qui pénètrent dans leur habitat. Les yeux des coquilles Saint-Jacques sont ainsi dotés d'un miroir concave pour réfléchir la lumière. C'est ce qu'ont déterminé ces chercheurs, dont Benjamin Palmer, un scientifique du département de biologie structurelle à l'Institut Weizmann de la science en Israël. Il est le principal auteur de l'étude. Ces miroirs sont formés d'une mosaïque de cubes cristallins microscopiques dont la morphologie complexe en trois dimensions permet aussi de réduire les aberrations optiques et de produire des images nettes. Les miroirs forment des images sur une rétine à deux couches de tissu de manière à produire séparément des images dans le champ visuel central et périphérique, donnant à la coquille Saint-Jacques un champ visuel d'environ, tenez-vous bien, 250 degrés. Comparativement à 180 degrés pour les yeux humains. Ce système de miroir composé de cubes dans les yeux multiples de ce mollusque ressemble de façon frappante au miroir segmenté des télescopes à réflexion, pointent ces chercheurs. Cette ressemblance pourrait notamment inspirer la création d'instruments compacts dotés d'un champ optique large, selon eux. Ils soulignent la grande complexité de l'organe visuel de la coquille Saint-Jacques, peut-être l'un des plus sophistiqués dans la nature. Les autres les auteurs soulignent surtout le degré très élevé d'organisation structurelle à une échelle nanométrique des miroirs au fond des yeux de ce mollusque pour à la fois réfléchir la lumière et la faire converger. Voilà, c'était un article assez scientifique, peut-être pas facile forcément à comprendre, mais ce que vous allez avoir dans votre assiette dans quelques jours peut-être est en fait un outil très sophistiqué.
Il y a 200 yeux qui vous regardent.
Effectivement.
Mais j'ai toujours fasciné par la diversité des types de recherches comme ça qui se passent à travers la planète. Et j'aime beaucoup quand ça débouche sur quelque chose de qui nous aide
à mieux comprendre l'univers.
Voilà, c'est ça. Alors, je l'emmène en Chine, mais je vous présente le côté sombre de la Chine. Et dans Paris Match, on intitule « La Chine défigurée ». Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle est devenue la deuxième puissance économique mondiale rapidement, en quelques décennies, et le premier pollueur de la planète, et n'en finit plus de payer la facture de son développement. De la terre à l'air en passant par l'eau, la contamination menace la santé de la population. Et depuis 2005, il y a un photographe qui s'appelle Liu Guang qui documente cette tragédie. Alors, vous vous en doutez, hein, un travail qui s'est heurté et continue à se heurter à de très nombreuses résistances. Là-bas, on appelle les usines géantes les dragons noirs. Seulement des murs séparent les vidages des dizaines d'aciéries, de centrales électriques, de raffineries. Et ces raffineries crachent des fumées chargées en dioxyde de soufre, gaz carbonique, particules de métaux lourds. Et la pollution peut atteindre des pics records, 16 fois la norme fixée par l'Organisation mondiale de la santé, 16 fois. C'est absolument incroyable. En 2006, les autorités décident de faire de la Mongolie intérieure la base énergétique de la Chine. Pensez au paysage de Mongolie, hein, la base énergétique. Alors, désormais, des mines à ciel ouvert transforment ces terres, des terres d'alpage. La Chine est le premier producteur et consommateur de charbon au monde. Et son extraction assèche les sols, génère des quantités incroyables de CO2. Alors, bergers, paysans sont contraints de migrer en ville, où pour eux, évidemment, la migration est extrêmement difficile, pénible. Une pluie ininterrompue de poussière toxique. Le jour, les habitants sortent sous des capuches ou même des parapluies. Des parapluies pour se protéger de la pollution. Hein. La nuit, ils se barricadent. Mais ils se réveillent toujours avec une couche noire sur la peau. Après, près des usines, les rejets chimiques contaminent l'eau. Les cultures de riz. Des cliniques de campagne fleurissent partout pour soigner les pneumonies, les rhinites, les pharyngites. Et les hôpitaux font face à une recrudescence de thromboses, de tumeurs aux poumons, à l'œsophage, à l'estomac. Et un taux de mortalité néonatale qui n'a jamais été vu jusqu'à maintenant. Au nord, je vous parlais de la Mongolie tout à l'heure, les vastes prairies, la course à l'industrialisation a contaminé les cheptels du peuple mongol. Il y a 10 ans, Pékin a décidé de faire de cette région la base énergétique du pays. Les mines d'extraction de charbon ont poussé comme des champignons. Et ça a été rejoint par l'industrie chimique et le traitement des minerais. Les bêtes sont tombées malades, par centaines. Leurs petits ont des malformations. Et les retombées de particules ont brûlé, bien sûr, l'herbe des champs. Ah, donc, pour les troupeaux, il n'y a plus rien à brouter. Donc, c'est la famine. Et évidemment, une vie de cauchemar pour le propriétaire aussi. Hein. Et le tourisme, c'est bien sûr que le tourisme est affecté aussi. Hein. Liu Guang, je vous parlais tout à l'heure, là, est allé photographier les terres ravagées, les vies détruites et l'agonie d'une région. Je peux vous dire, les photos qui apparaissent dans Paris Match sont absolument terrifiantes. Il a commencé dans les années 80 à s'intéresser aux problèmes environnementaux. Un travail pour lequel il a reçu en 2004 le prix du World Press Photo. Et un photoreporter venait de naître. Alors, le monde découvre à ce moment-là le quotidien des gens de la Mongolie intérieure. Sur ces terres, les ouvriers travaillent 15 heures par jour et vomissent à chaque soir les polluants qu'ils ont inhalés toute la journée. Gorge enflée, poumons abrasés. Et sortie de la révolution culturelle, la Chine est devenue en 3 décennies la 2e puissance économique du monde. Et l'usine du monde, comme on l'appelle, il paie le prix fort de sa course. Pékin va pratiquer jusqu'à maintenant la politique de l'autre, je ne connaissais rien. Ainsi, on stoppe les centrales le jour de la fête nationale. Écoutez ceci, on stoppe les centrales le jour de la fête nationale, ben pourquoi? Ben pour permettre aux militaires de défiler sous un ciel éclatant, parce que les photos sont transmises à travers le monde. Et c'est plus photogénique qu'avoir de la difficulté à les voir là, au milieu de la pollution. La pollution de l'air, elle est visible, mais celle des sols, des eaux qui empoisonnent les villages, ben, c'est sournois. En 2009, le Yangtze-Kiang, plus long fleuve d'Asie, était, selon le photographe dont on a parlé, pollué à 70 %. 70 %. Beaucoup d'industries se débarrassent des métaux lourds, du zinc, du plomb, de l'étain, et sans parler des usines de teinturerie. Vous savez, les usines de teinturerie qui fabriquent les jeans délavés qu'on achète partout dans le monde. En 2012, Dugong entreprend de photographier les décharges qu'on trouve le long du fleuve. Une canalisation d'environ 1500 mètres de longueur rejetait l'eau sale. L'odeur persistait sur un immense périmètre et les poissons étaient morts et flottaient à la surface. Et la ville de Changshu s'est transformée en un véritable parc industriel. Nombreuses entreprises internationales, pas juste la Chine, le reste de la planète alimente aussi, parce que des entreprises internationales, à cause des coûts, ont investi dans ces usines. Le photographe consacre toute son énergie à dénoncer le fléau de la pollution. Il veut montrer la mort à l'œuvre chez les habitants, une tragédie que le pays a considérée comme un dommage collatéral. Les autorités voient d'un mauvais œil son activisme. On a souvent voulu confisquer son appareil et même il s'est fait rouer de coups à certains moments. Et à la suite de ces publications, cependant, l'eau courante a été amenée dans certains quartiers. Des villages ont déménagé dans des lieux plus sûrs. Après l'apparition de ses photos sur Changshu, il est revenu sur le site et nous dit que la situation s'était améliorée, mais on n'a aucune idée où sont vidées des eaux usées à présent? Probablement au plus profond du fleuve, de sorte qu'on ne les voit pas. Beaucoup d'entreprises enterrent des tuyaux qui vont jusqu'au milieu du Yangtze. Ils ouvrent les vannes en pleine nuit. Donc, tout est camouflé, tout est caché. Les habitants les plus pauvres utilisent ces eaux contaminées pour boire et cuisiner. C'est ahurissant, hein? Il nous dit qu'en 2005, il s'est rendu dans le village de Shaqiang, dans le nord-est de la Chine. Il a croisé plus de 50 personnes qui souffraient de cancer, de thrombose, après avoir consommé cette eau malsaine. On parle alors de village cancer. Je trouve ça extrêmement triste. C'est une réalité qui ne sera reconnue par Pékin officiellement qu'en 2013. Alors, face à l'enjeu majeur que représente l'écologie, la Chine, c'est peu à peu réveillé. Est-ce que notre ami Lu Guang serait devenu un prophète dans son pays? Donc, sa lutte a trouvé un écho dans la prise de conscience mondiale. Le premier pollueur de la planète s'est décidé à être plus vertueux. Une loi pour assainir l'eau des fleuves a été adoptée. La fermeture de plus de 100 centrales au charbon est prévue. Et on sait qu'il a été partenaire de l'incontournable accord de Paris et il s'est engagé à consacrer au moins 361 milliards de dollars aux énergies renouvelables d'ici 2020. Est-ce qu'il va le respecter? Ben, c'est autre chose. Alors, l'incurie écologique des 30 dernières années a hypothéqué l'avenir d'une partie de la population. Et selon une étude menée en 2015 par l'Université de Berkeley, la pollution tuerait encore plus de 4000 personnes par jour. 4000 personnes par jour. Ah. Le photographe continue son travail. C'est véritablement le combat d'une vie. Mais c'est quand même incroyable qu'on en soit rendu là dans un pays de cette envergure.
autre pays, autre ville et autre type de pollution dont je vous parle, la pollution touristique. Après de nombreux efforts pour attirer les touristes, la capitale culturelle des Pays-Bas, Amsterdam, est dépassée par leur nombre. La municipalité devrait prendre des mesures. Il y a environ 10 ans, Amsterdam a tout misé sur le tourisme. Se rendre accueillante devait être un moyen pour la ville néerlandaise de se relever de la crise financière de 2008. Avec ses canaux, ses vélos, ses maisons pittoresques, ses grands musées de peinture et son cannabis en vente libre, la cité avait tout pour devenir une destination prisée. Résultat, entre 2005 et 2016, le nombre de touristes est passé de 11 millions à 18 millions par an. Et il devrait atteindre 23 millions par an d'ici 2030. Beaucoup trop aux yeux des 850 000 seulement résidents permanents, d'autant que le centre historique de la ville, du XVIIe siècle, formé de rues étroites et de canaux, n'est pas du tout conçu pour absorber un tel flot de visiteurs. Le Guardian a interrogé des Amstelodamois, témoins impuissants de la transformation de leur ville. Els Imping, 64 ans, a récemment surpris des touristes alcoolisés, bien sûr, en train de déraciner les plantes de son jardin. Selon elle, le flot incessant de touristes laisse chaque jour un déluge d'ordures derrière lui. Le pire, explique-t-elle, désolé mais voilà, je dois le lire, le pire c'est le vomi dans les jardinières, dit-elle, parce qu'on ne peut pas se contenter de rincer, il faut l'enlever à la petite cuillère. Après cette entrée en matière peu ragoûtante, elle dit aux Guardian à quel point son quartier a changé en une décennie. Les cris de touristes avinés du jeudi au dimanche, les commerces de proximité qui ont laissé place à des boutiques destinées aux touristes. Les propriétaires sont également moins enclins à louer leur espace à des services destinés aux locaux. Pour les médecins, il est de plus en plus difficile de trouver des espaces où installer un cabinet, regrette encore Els Imping. Mais je me considère comme chanceuse, au moins moi, je connais mes voisins. De plus en plus d'habitants vivent entourés, en effet, d'appartements disponibles sur des plateformes comme Airbnb. Les occupants vont et viennent et la vie de quartier disparaît. Les visiteurs voient Amsterdam comme un parc à thème géant, ajoute-t-elle. En se mobilisant, des habitants ont toutefois réussi à avoir raison des Beerfists, une sorte de vélo collectif pouvant accueillir 12 personnes qui faisaient office aussi de bar et charriaient avec lui un ensemble de problèmes. Bruit, bière renversée et évidemment une question d'hygiène qui ne manque pas de se poser lorsqu'un touriste a bu trop de bière. Récemment, la municipalité a pris des mesures pour mieux encadrer les locations sur Airbnb et a décidé d'un moratoire sur la construction de nouveaux hôtels. La taxe hôtelière a été augmentée et les nouvelles boutiques destinées aux touristes ne sont plus les bienvenues dans le centre-ville. Pendant des années, nous avons encouragé les développeurs immobiliers à construire des hôtels et notre équipe marketing a fait le tour du monde pour vanter Amsterdam comme destination touristique. Nous avons conscience désormais que nous devons reprendre le contrôle, explique le conseiller municipal chargé de l'économie. Notre stratégie marketing a consisté à dire aux gens de venir à Amsterdam. Désormais, nous voulons leur dire « Venez, mais soyez respectueux ». Car Amsterdam a la réputation d'être la ville où tout est possible. Prendre de la drogue, mais aussi fréquenter le quartier rouge, les quelques rues d'Amsterdam où les prostituées ont pignon sur rue. Amsterdam a cette réputation et c'est pour cela que de nombreux touristes se déchaînent. Ils font ici des choses qu'ils ne feraient même pas en rêve chez eux, explique un habitant de 59 ans. La cité hollandaise n'est pas la seule ville européenne à connaître ces contreparties délétères du tourisme de masse. Le mécontentement des habitants monte depuis de nombreuses années, en Italie, en Espagne ou plus récemment en Croatie. À Venise, par exemple, la municipalité décrit un état de guerre en juillet et août et une campagne d'affichage pour inciter les touristes à se montrer plus respectueux a vu le jour cet été, à la suite d'une manifestation réunissant 2000 habitants. À Rome, le tarif des amendes pour les touristes qui s'installent sur les fontaines pour déjeuner a augmenté. À Barcelone, des tags ont fleuri au cours de l'été. « Le tourisme tue nos quartiers », pouvait-on lire sur le pare-brise d'un bus à Impérial destiné aux visiteurs. La municipalité a promis un meilleur encadrement des locations sur Airbnb. Plusieurs facteurs favorisent l'émergence d'un problème qui semble désormais difficile à surmonter. L'essor de la location saisonnière dans le parc privé, les vols à prix cassé qui favorisent la pratique de la fin de semaine prolongée. Or, si le nombre des touristes augmente, les destinations changent peu. Ce sont donc d'abord les villes d'art et d'histoire européennes qui restent privilégiées et qui doivent assumer cette pression toujours accrue. Voilà donc, si jamais vous voyagez, bien faites un peu attention à l'endroit où vous vous trouvez et pensez qu'il y a des gens qui habitent là et que vous n'aimeriez peut-être pas que l'on fasse ça dans votre rue.
Oui, c'est une réalité un peu triste. Avec la démocratisation, c'est de plus en plus facile avec des vols à bon marché. Et on dirait que l'homo tourismus, il change de personnalité quand tout d'un coup quand il est en voyage. Des choses qu'il ne ferait jamais chez lui.
Emportez vos bonnes habitudes quand vous êtes en voyage. Ouais, ne les laissez pas chez vous.
C'est une réalité qu'on retrouve un peu partout, qu'on retrouvera peut-être un peu chez nous, hein, parce qu'on veut de plus en plus de touristes. On les attire par toutes sortes de moyens. Mais parfois, et je pensais, je ne peux pas faire autrement que de penser à Venise. Mm-hmm. Venise, que c'était véritablement envahi. Surtout, on en parlait récemment, par les immenses bateaux de croisière qui vont accoster. Et vous avez tout d'un coup 2 à 3 bateaux de croisière qui peuvent représenter 10 à 12 000 personnes qui débarquent d'un coup, en même temps. Alors, c'est l'invasion. Et pas toujours très bien civilisé. Alors, je vous parle souvent d'oiseaux dans la nature. Et on nous dit qu'observer les oiseaux en milieu naturel, autant qu'en milieu urbain, serait excellent pour le moral. Des études réalisées auprès de plus de 270 personnes révèlent que plus on voit d'oiseaux, d'arbres, d'arbustes dans notre environnement immédiat, moins on risque de souffrir de dépression, d'anxiété, de stress. C'est pas nécessaire d'observer des oiseaux les plus flamboyants pour ressentir les bienfaits. Des oiseaux communs, comme des corneilles, des merles que vous apercevez depuis votre fenêtre, dans la cour arrière, dans le voisinage, ben, ça a le même effet bénéfique. Aucun lien entre l'espèce observée et le niveau de santé n'a été. Aucun lien n'a été établi. Par contre, plus le nombre d'oiseaux observé est élevé, ben, plus le niveau de dépression, d'anxiété ou de stress est bas. Alors, les conclusions de l'étude demeurent les mêmes, indépendamment des autres facteurs sociodémographiques, tels le revenu, l'âge des individus. Ce qui est important, quelle que soit la personne ou la personnalité, c'est de pouvoir observer la nature. Bon, alors je crois que notre émission arrive à terme. On vous remercie de votre fidélité à chaque semaine. Et aussi, ben, merci à Louis de Bernis.
Avec plaisir, toujours.
Et bien sûr, aussi Maurice Bolduc pour la mise en onde, les choix musicaux et sa présence. Alors, on vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine.
Bonne semaine à tous.